Mathieu Croissando, Jean-Jérôme Bertolu, Thierry Guerrier.
Bonjour à tous. Bonjour Jean-Luc Mélenchon.
Bonjour.
Et bienvenue dans ce grand rendez-vous qui va nous donner l'occasion de nous intéresser à l'avenir du Front de Gauche après votre percée à la présidentielle, mais après aussi votre déconvenue aux législatives. Alors comment peser sur les choix du gouvernement? C'est la question à laquelle vous êtes confronté aujourd'hui. Nous sommes à la veille d'un séminaire gouvernemental, à une semaine du discours de politique générale du Premier ministre, Jean-Marc Ayrault. Il faut trouver au moins 10 milliards d'euros pour le gouvernement pour boucler le budget 2012. Les plans sociaux menacent et l'Union européenne peine visiblement à conserver la Grèce dans la zone euro. Alors, comment peser alors que le PS n'a pas besoin de vous, n'a plus besoin de vous aujourd'hui pour gouverner? Et puis, quel bilan politique tirez-vous de votre croisade anti-Le Pen alors que votre partenaire, le Parti communiste Pierre Laurent, explique qu'il est temps de revenir au collectif, façon peut-être de regretter l'ultra-personnalisation des dernières campagnes? Et quel bilan personnel tirez-vous de votre action politique de ces derniers mois alors que vous entrez dans le dico, dans le dictionnaire, dans le petit Robert, aux côtés de l'acteur Jean Dujardin, signe d'une notoriété décuplée que vous avez recherchée, qui vous pèse aussi parfois, avant de prendre peut-être un petit peu de repos mérité après ces mois et ces mois de stress électoral. Sur tous ces sujets, nous allons vous interroger avec Mathieu Croissando du Parisien Aujourd'hui en France et puis Jean-Jérôme Bertolus d'Itélé qui vous pose la première question.
Alors Jean-Luc Mélenchon, on connaîtra également cette semaine l'ampleur du coup de pouce décidé par le gouvernement pour le SMIC qui serait limité à 5%, mais les échos croient savoir que ce coup de pouce serait entre 1,5% et 2,5%. Ça vous paraît raisonnable compte tenu de l'environnement économique et de l'état des entreprises ?
Bon, nous n'avons pas du tout la même évaluation de ce qu'il y a lieu de faire au plan économique avec les socialistes. Ce n'est pas une nouveauté, on l'a amplement débattu pendant la campagne. Par conséquent, je ne suis pas surpris de les voir ne pas attacher vraiment d'importance à l'augmentation du SMIC. Alors que nous pensons au contraire que c'est le SMIC qu'il faut pousser en avant, parce que par un effet de contagion, ensuite tous les salaires progressent, et parce que tel qu'il est, le SMIC ne permet pas de vivre, je ne dis même pas décemment, ne permet pas de vivre tout simplement, notamment dans les grandes agglomérations urbaines du pays. Pour le reste, vous savez que le SMIC est un salaire horaire et que pour l'essentiel, ce sont des femmes qui sont payées au SMIC. Par conséquent, nous parlons là, sur un plan humain, de la part de la population la plus maltraitée et sur le plan économique, du premier moteur de relance de l'activité économique. Quand vous donnez une augmentation au petit salaire, cette augmentation est immédiatement dépensée et donc elle pousse l'ensemble du système économique. On n'a pas le même diagnostic. Les socialistes, eux, sont sur...
Ça vous paraît plutôt... très dérisoire entre 1,5 et 2,5.
Alors, l'adjectif dérisoire, puisque vous me le proposez, oui, je le prends. Et je voudrais le démontrer en un mot. Si on avait appliqué ce que François Hollande lui-même a dit de la façon d'augmenter le SMIC, hein, je ne vais pas embarrasser nos auditeurs et nos téléspectateurs,
sur
il avait
croissance.
Prévu la moitié de la croissance, etc. Tout le monde a fait l'observation que pendant les 5 années de M. Sarkozy, il n'y a pas eu de coup de pouce. Donc, si on avait dit, bon, on rétablit un peu de justice, on fait un rattrapage, on aurait dû être à plus de 4% d'augmentation, plus de 4 points. Là, c'est pas ça. Si les échos ont raison, il faut pas non plus... On parle là d'une information purement journalistique. On nous parle de 2 points d'augmentation du SMIC. Et dans ces 2 points, il y aurait une anticipation de ce que serait, j'espère que tout le monde suit, l'augmentation du SMIC en janvier prochain. Donc, en janvier prochain, de toute façon, le SMIC aurait été augmenté de 1,4. Total, le coup de pouce donné par le nouveau gouvernement de gauche est de 0,4%. Eh bien, oui, je crois que l'adjectif dérisoire s'applique à... Et surtout dérisoire, et c'est une erreur.
Mais vous entendez
parce qu'il
bien,
faut relancer l'activité.
Vous entendez bien l'argument des entreprises françaises, et pas uniquement du MEDEF, la CGPME aussi, selon lequel augmenter le SMIC, c'est réduire d'autant plus la compétitivité des entreprises françaises, c'est donc casser les emplois.
Oui. Non, je n'y crois pas un instant. D'abord, je n'ai jamais vu qu'une augmentation du SMIC soit approuvée par quelques branches, que ce soit du patronat, et on comprend pourquoi. Mais dans l'histoire, ça ne s'est jamais vu une seule fois. Ils n'ont jamais proposé une seule fois de faire comme ça. Donc, ce n'est pas une surprise de voir qu'ils y sont hostiles. Hein. Je rappelle que dans notre histoire, nous avons eu des poussées du SMIC extrêmement fortes, qui ont toujours correspondu, produit une relance de l'activité extrêmement forte. Donc, je le redis, les petits patrons que je connais, sont d'abord préoccupés par l'état du carnet de commandes.
Eh oui.
Leur problème, c'est pas de maltraiter leurs ouvriers. Leur problème, c'est d'avoir un exercice comptable qui tient debout. Si le carnet de commandes se remplit, l'argent rentre et il y a une autre clé de répartition entre...
Une période où le carnet de commandes, justement, est vide, quasiment,
voilà. Vous
voulez qu'en plus, ils augmentent ?
Mais voilà, Thierry Guerrier, comme vous mettez le doigt exactement à l'endroit du cercle vicieux. Le carnet de commandes n'est pas plein, donc on ne peut pas augmenter les salaires. Comme on ne peut pas augmenter les salaires, le carnet de commandes ne se remplit pas, et ainsi de suite. Donc on tourne en rond. Si on augmente les salaires, les carnets de commandes se remplissent. Maintenant, les petites entreprises ont de vraies difficultés, notamment des difficultés de trésorerie. Et pas que les petites entreprises. Et là, nous avons une question à poser. Comment les mêmes qui jettent de si grosses larmes à propos de l'augmentation du SMIC ne disent rien à propos du fait que le système bancaire ne leur fait pas les prêts qui permet à leur trésorerie de fonctionner? Et pour cette raison, des entreprises moyennes et même des entreprises décisives, je pense par exemple à Meryl Fiber, la seule entreprise qui produisait du fil nylon, c'est un problème de trésorerie qu'elle a eu, l'entreprise du Sirotti, pareil, et ainsi de suite. Ces problèmes de trésorerie ne sont pas réglés. Pourquoi les banques ne prêtent-elles pas? Pourquoi prêtent-elles à des taux aussi exagérés, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises? Est-ce que vous avez regardé ce qu'est un taux moyen de ce qu'ils appellent les crédits revolving? Parce que quand on le dit en anglais, ça fait tout de suite plus moderne et plus branchouille. Mais pour la personne concernée qui a besoin de vie, pourquoi croyez-vous qu'elle va se réendetter? Justement parce qu'elle n'a pas les augmentations de salaire. Donc on fait reposer sur l'emprunt, sur le crédit, ce qu'on n'a pas obtenu par son salaire. C'est ce modèle économique pourri qui a amené les États-Unis d'Amérique au fracas dès que la crise des subprimes. Donc, comment se fait-il qu'on prête à des particuliers à 18%. Vous trouvez ça normal? Qu'est-ce qui justifie des coûts bancaires pareils? Pourquoi les banques qui ont reçu 1000 milliards entre décembre de l'année dernière et janvier de cette année de la Banque Centrale Européenne n'en ont pas remis 1 euro en circulation dans l'économie réelle? Le patronat français, pourquoi lui-même ne vient-il pas sur les chaînes de télévision et de radio expliquer que comme il n'y a pas de crédit bancaire, lui-même, Union des industries mécaniques et métallurgiques, a été obligé d'organiser dans son propre rang, dans ses propres rangs, des systèmes de prêts entre trésoreries d'entreprises pour pallier la carence du système bancaire?
La voilà pourquoi publique.
Nous, on a parlé d'un pôle public de la finance pour aider les entreprises à respirer. Ça, c'est de l'économie.
C'est dans les
le
projets.
Reste, c'est de l'économie
c'est
de
dans
chandelle.
Les projets du Premier ministre, du Président. François Hollande oui. L'a rappelé encore récemment. Question, Mathieu Croissando.
L'autre sujet d'actualité, c'est les plans sociaux qui montent beaucoup depuis l'élection de François Hollande. Alors, lui, il dit qu'ils étaient prévus, ils ont été retardés après l'élection. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis ensuite, Arnaud Montebourg a nommé des médiateurs dans chaque département pour faire le point sur la situation et engager le redressement productif, est-ce que ça suffit? Et qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, alors d'abord, il faut faire crédit à ceux qui commencent, leur laisser une chance. On ne peut pas à peine installer, commencer à leur chercher des poux dans la tête et dire vous n'arrivez à rien, comment ça se fait qu'en 8 jours vous n'avez pas réglé ce qui traîne depuis des mois? Mais d'abord, commençons par dire que ce n'est pas une découverte, j'espère, pour les dirigeants socialistes, qu'il y a des plans sociaux qui se préparent partout, parce que ça, on le savait avant.
Ils le disaient eux-mêmes.
D'où la création du ministère.
Voilà. Mais il ne suffit pas de créer un ministère, ni de nommer des médiateurs. Les médiateurs, c'est bien, ça permet de s'apercevoir de ce qui se passe. Mais eux aussi, ils le savaient avant. Arnaud Montebourg et les autres dirigeants socialistes ont fait le même circuit que moi. Ils sont tous passés à Sodi Médical. Ils savent tous que les femmes ont gagné 32 procès et qu'elles n'ont pas été payées pendant 7 mois. On attend quoi pour qu'elles soient payées tout de suite? Et je pourrais prendre comme ça toutes les entreprises.
Mais alors, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire?
Eh bien voilà, concrètement, c'était bien le débat des présidentielles, non? Est-ce que je n'ai pas proposé une loi pour interdire les licenciements boursiers? Est-ce que nous n'avons pas proposé le droit de veto des comités d'entreprise sur les décisions stratégiques? Est-ce que nous n'avons pas... Bref, je pourrais reprendre toute la liste. Est-ce qu'on ne nous a pas reproché à l'époque? Ce n'était pas réaliste. Qu'est-ce
qui est
réaliste?
Aujourd'hui, dans les cartons, c'est la loi sur les licenciements boursiers, c'est dans les cartons de Michel Chapin, manifestement.
Eh bien alors, il faut qu'on se dépêche de l'appliquer. Si elle est dans les cartons, M. Bertolus, vous en prenez la responsabilité de le dire. Moi, je suis partisan d'une loi sur l'interdiction des licenciements boursiers. Je suis partisan du droit de veto des comités entreprises dans les entreprises. Troisièmement, quand les travailleurs d'une entreprise en sont d'accord et qu'ils veulent créer une coopérative ouvrière et que la boîte est abandonnée, ils doivent pouvoir la diriger. Quatrièmement, quand un entrepreneur ne veut pas vendre son entreprise et décide de la laisser mourir, comme ça a été le cas de Emria de la papeterie, alors il devrait y avoir l'obligation légale que s'il y a un repreneur, il le vende. Il y avait des repreneurs.
Et quand c'est un grand groupe, dans le cas de l'affaire Doux, avec le choix du fondateur de déposer le bilan, alors qu'il y avait éventuellement des repreneurs, là, vous considérez qu'il faudrait...
Là, il y a un intérêt général. Toute la question qui nous est posée est de savoir s'il y a oui ou non un intérêt général économique. Là, dans le cas de Doux. Est-ce qu'il y a un intérêt général? Eh bien, on dit non. C'est la loi du marché, donc on doit laisser faire les choses. C'est aussi dogmatique que ceux qui disent qu'on doit tout contrôler. C'est aussi absurde de tout laisser faire que de dire qu'on veut tout contrôler. Il y a un chemin intermédiaire que, bon, moi, j'ai essayé de présenter pendant la campagne, j'ai appelé ça la planification écologique, bref, de donner des règles du jeu qui permettent de voir comment on organise et en quoi consiste l'intérêt général. Je vous prends un exemple, le plus récent, c'est celui de Meryl Fibert. Une seule usine produit du fil nylon en France. On peut dire qu'il y a un intérêt général français. Là-dessus, l'un ou l'autre me dira, ah, mais non, monsieur Mélenchon, l'Europe, très bien. La seule usine en Europe qui produit du fil nylon, c'est Meryl Fibert. On ferme cette usine pour des raisons qui n'ont rien à voir ni avec la productivité, ni la qualité du produit, des raisons purement, d'organisation du groupe qui contient cette entreprise. Alors, il n'y a pas d'intérêt général. Moi, je dis qu'il y a un intérêt général. L'entreprise devrait être réquisitionnée. Réquisitionnée et mise en vente. Qui en veut ? Voilà.
Ça s'appelle une forme de nationalisation.
Éventuellement.
Ah, la nationalisation, c'est dans certains cas et pour certaines choses. On va pas commencer à nationaliser.
Nationalisation
tout.
Transitoire, quoi.
Ça peut être la réquisition. C'est une réquisition, c'est pas une nationalisation. Ça se décide, une nationalisation. Mais si vous dites, telle entreprise est réquisitionnée, j'observe qu'elle est viable, que le produit est de bonne qualité, qui veut l'acheter ? Par exemple, les travailleurs disent, eh ben nous allons faire une coopérative ouvrière. Alors, ils préemptent. Loi de préemption pour les travailleurs. Ou bien les travailleurs ne disent rien, mais on dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que ça intéresse de produire du fil nylon ? Voilà.
Et quand
voilà
comment on peut.
Et vous voyez ce que je raconte là, c'est quelque chose de pragmatique, de concret, de simple à mettre en œuvre. Mais pourquoi ne le fait-on pas ? Pour une raison purement idéologique. Parce qu'on considère que le droit de la propriété privée sur les moyens de production est supérieur à tous les autres droits.
Et quand il s'agit d'un site industriel et pas forcément d'une entreprise, je pense à PSA, puisqu'on a appris cette semaine qu'une menace planait sur le site d'Aulnay, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réquisitionner le site.
Vous avez noté que c'est pas moi le ministre, hein, parce que moi j'ai pas tous les dossiers en main. Mais PSA, je peux aussi vous en parler. Je peux observer comment PSA a fait une stratégie politique qui était différente de celle de Renault. À partir du moment où vous laissez le système suivant se mettre en place, c'est-à-dire on produit des automobiles à l'extérieur de la zone européenne pour les ramener et les vendre. Par exemple, aujourd'hui, 3 modèles Renault sur 5 qui arrivent et que vous achetez ont été produits à l'étranger. Si vous acceptez ce système-là, pourquoi voudriez-vous que PSA, qui avait une autre stratégie, continue son autre stratégie avec des entreprises localisées ? Donc la première riposte qu'il faut faire, c'est empêcher ça. Les usines qui sont à Tanger, ma ville natale, pour Renault, moi je suis d'accord pour qu'il y ait une usine Renault à Tanger.
Si elles alimentent le marché local.
Mais pour qu'elles alimentent le marché local, c'est-à-dire qu'on relocalise la production. Et pourquoi les automobiles qui vont circuler en Europe devraient-elles être produites ailleurs qu'en Europe ?
Parce qu'elles sont moins chères, vous direz.
Et voilà. Or, le moins cher, c'est de la vision à courte vue. Parce que quand vous enlevez du salaire aux ouvriers de PSA, je ne vais pas vous revenir aux fondamentaux de l'histoire économique, mais on disait Ford paye bien ses ouvriers, c'était ça le Fordisme,
pour
que ses ouvriers achètent des voitures Ford. Mais si vous enlevez leur paye aux ouvriers de PSA, ils n'achèteront pas des voitures de PSA, ni des voitures Renault. Et à la fin, nous allons avoir quoi ? L'Europe se sera vidée de son sang industriel, concentrée sur quelques activités de service, avec des masses immenses de chômeurs qui ne pourront s'acheter ni des voitures, ni des services.
L'avenir de PSA passe aussi par son nouvel actionnaire ou associé, un groupe américain.
Oui, mais écoutez, on va toujours trouver des rebondissements et on ne va pas traiter ici autour de cette table d'une manière un peu ridicule le cas de PSA. Mais moi, ce que j'observe, c'est que c'est la première fois que dans le démantèlement d'une entreprise française, l'essentiel du démantèlement porte sur le secteur recherche et développement. Ce qui signifie que le cœur même de la performance intellectuelle que contient une marchandise, à notre époque, ce qui compte, c'est bien sûr les matériaux, les aciers spéciaux, et tous les matériaux. Bon. Être la capacité de les produire. Nous sommes en train de la perdre. Et deuxièmement, c'est la matière grise. Et là, pour la première fois, on nous montre un système où on délocalise la matière grise. Mais qu'est-ce qui va rester à la fin ?
Alors,
M. Poissando, vous pourrez toujours me dire, que voulez-vous, ça coûte moins cher. Oui, mais à la fin, il n'y aura plus personne pour acheter quoi que ce soit, tellement ça ne sera pas cher.
Jean-Luc Mélenchon, donc divergence au plan économique avec le gouvernement. Vous jugerez sur pièce, effectivement, l'action d'Arnaud Montebourg, mais en matière fiscale, maintenant.
Lundi,
le gouvernement se réunit pour un séminaire. Il doit trouver 10 milliards. Le président de la République a indiqué que cela ne frapperait pas les classes moyennes.
Comment
cela veut dire relèvement du taux de l'ISF. Cela veut dire, effectivement, relèvement des taux de succession. Ça, vous êtes d'accord ?
Alors, bon, je serai d'accord quand je verrai, hein, parce que...
Qu'est-ce que vous le suggérez ?
Le point de départ... D'abord, je veux dire juste un mot pour finir ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Il ne suffit pas non plus de vouloir produire. Il faut savoir ce qu'on produit. Si le gouvernement avait, si au lieu d'avoir simplement un homme qui s'occupe de je ne sais pas quoi productif, là, le redéploiement productif...
Le redressement productif
de M. Montebourg. Ce n'est pas redressement productif, c'est la planification écologique. C'est-à-dire quel horizon de production. Là, on relance l'activité parce qu'on doit modifier l'outil de travail.
Non, mais là, vous avez un budget à boucler.
Oui, sur la fiscalité. Alors... On dit depuis le début, si vous vous laissez enfermer dans les clous du mécanisme européen de stabilité, du semestre européen et des normes de la Commission, vous êtes mort. On l'a dit sur tous les tons. On m'a dit, oui, mais monsieur Mélenchon, tout ça, c'est des grandes considérations. Nous voici au pied du mur. Non seulement, maintenant, on ne pourra pas aller au-delà de 3% par rapport à la production du pays, mais on va descendre jusqu'à 0,5. C'est-à-dire qu'on va étrangler nos économies. Et le gouvernement, de gauche, est en train de travailler sérieusement à faire plaisir à la commission d'origine.
Vous êtes même contre l'exercice, alors il ne faut pas effectivement faire baisser le niveau du déficit budgétaire, comme va tenter de le faire
l'année prochaine. Alors, prenons bien les choses dans l'ordre, M. Bertolus, sinon on ne va pas se comprendre. On peut combler le déficit de deux manières. Soit en augmentant la dépense publique, en relançant l'activité, de cette manière, taxes et impôts rentrent en plus grand nombre et le budget se remplume. Et d'une autre manière, on peut réduire la dépense publique, contenir les salaires et s'empêcher de respirer pour éviter de consommer de l'oxygène. Voilà. Il y a les deux méthodes. Moi, j'ai choisi depuis le début la relance. Eux essayent de tenir la position qui est celle du gouvernement allemand, qui se moque d'eux en plus. Donc, ils sont dans les clous. Ils n'y arriveront pas. Comment pouvons-nous remplir la caisse ? J'y reviens, on peut aller taper sur le capital, sur les revenus du capital, sur les revenus des trésoreries des grandes entreprises qui représentent des sommes considérables. Est-ce que vous croyez que c'est ça qu'ils vont faire ? Bien sûr que non, car pour complaire à la Commission européenne et au plan qu'elle a fixé, justement, tout ceci est interdit. Il est interdit d'augmenter les prélèvements sociaux, il est interdit de raccourcir la durée de la retraite, etc. Par conséquent, tant qu'ils sont dans les pures européennes, ils ne peuvent pas respirer. Or, que viennent-ils de faire ? Ça va être notre sujet tout à l'heure. Ils viennent de capituler. Ils viennent d'accepter la règle de Mme Merkel, qui en plus se fiche d'eux. François Hollande avait annoncé sur tous les thèmes qu'il renégocierait le traité européen, qui est en train de conditionner nos budgets. Et Mme Merkel prévoit pour le 29 juin, jour auquel se réunit le Conseil et le sommet, c'est-à-dire le jour où normalement on aurait dû poser sur la table la nécessité de renégocier le traité, c'est ce qu'avait dit François Hollande, et bien c'est ce jour-là que Mme Merkel décide de faire passer au Bundestag, avec l'appui des socialistes allemands, le traité tel qu'il est. Par conséquent, ça veut dire victoire par chaos du gouvernement CDU-CSU contre le gouvernement socialiste français.
Vous ne serez pas surpris, Jean-Luc Mélenchon, que la droite, par exemple, pense totalement différemment de vous à cet égard, puisqu'elle considère qu'au contraire...
Si vous pensez la même chose que moi.
Puisqu'elle considère qu'au contraire, la tactique de François Hollande à l'égard de Mme Merkel n'est pas la bonne, et que cette façon de lui tenir tête ne serait pas de grande efficacité. On va y revenir dans un instant, si vous le voulez bien, et on parlera de vous...
Qu'est-ce que la droite dit à propos de la
gauche ? Non, c'est pour dire qu'il y a une autre vision de l'approche...
Mais vous aurez l'occasion d'inviter des gens de droite qui vous expliqueront pourquoi en France s'applique un bolchevisme échevelé depuis que François Hollande est président de la République. Mais je doute qu'ils arrivent à convaincre grand monde, en tout cas ceux qui connaissent les dossiers, savent que là, à cette heure à laquelle on parle, et moi j'en suis terriblement désolé, eh bien c'est Mme Merkel qui a le point.
Nous verrons ça dans un instant, retour avec vous, et on va parler de votre avenir aussi, européen ou non.
Tous les dimanches, 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Itélé, Le Parisien et Aujourd'hui en France. Mathieu Croissandeau, Jean-Jérôme Bertolu, Thierry Guerrier.
Grand rendez-vous avec Jean-Luc Mélenchon, notre invité ce matin avec Le Parisien Aujourd'hui en France sur Itélé et sur Europe 1. Jean-Luc Mélenchon, on a vu à l'instant ce que vous attendez du nouveau gouvernement de gauche. On reviendra sur la façon, alors que vous ne pouvez pas vraiment peser dans la majorité aujourd'hui, sur la façon dont vous comptez peser sur les choix de ce gouvernement. Mais d'abord, Rome, nous revient le président de la République. Question de Mathieu Croissandeau.
François Hollande a rencontré à Rome ses homologues européens. Il s'est félicité qu'on parle plus de croissance et puis d'une certaine façon de la relance de grands projets européens avec une somme qui a été annoncée de 110 milliards. Est-ce que ça vous paraît une première étape positive ou est-ce que vous venez de dire à l'instant que c'est Merkel qui avait marqué le point ?
Monsieur Croissandeau, vous voyez à ma mine combien je suis embarrassé parce que si je critique, on va dire « Ah là là, mais il ne lui laisse même pas le temps de respirer ». Mais si je me tais, je serai complice d'une mystification.
Pourquoi mystification ?
Évidemment.
Parce que c'était déjà dans les tuyaux ?
Premièrement, parce que de la croissance, je voudrais rappeler qu'il y a une divergence sur le contenu du mot. Par exemple, pour le gouvernement conservateur allemand, déréguler, faire reculer le droit du travail, supprimer le contrat à durée indéterminée, comme le recommande la Commission européenne, c'est contribuer à la croissance. Donc le même mot peut habiller deux politiques complètement différentes, l'une de relance, l'autre de dérégulation. Ce thème de la croissance était déjà présent dans le dernier sommet auquel a participé Nicolas Sarkozy, avec ce contenu. Là, Je vous rappelle de quoi nous partons. Il était question de renégocier le traité. Puis il a été question d'y rajouter un volet croissance. Donc on oublie la renégociation. De toute façon, elle est enterrée, vu que les Allemands, pour se moquer des Français, ont fixé au jour de la rencontre du sommet l'adoption. Donc on oublie la renégociation. Voyons le volet croissance. Que reste-t-il ? On nous annonce, et Mme Merkel, avec son sourire spécialement piquant, dit « Oui, oui, nous envoyons un très bon message ». C'est clair, elle s'est moquée de nous, grandeur nature. Hein, quelque chose.
Pourquoi ? Les 110 milliards.
110 milliards, vous vous rendez compte ? Alors, évidemment, les gens, 110 milliards, ça fait beaucoup de milliards. Hein. On nous dit ça fait 1%. Vous savez quelle est la richesse produite par an par l'Europe ? 14 000 milliards. Vous savez combien on a donné aux banques en 3 mois ? 1 000 milliards. Et là, pour la relance, on donne 1%. 120 milliards, ce qui, soit dit par parenthèse, ne fait pas 1%, parce que 120, c'est pas 1% de 14 000, hein. C'est un peu moins de 1%. Et que contiennent ces 120 milliards ? C'est là la question que les journalistes ont maintenant posée à partir de demain, quand ils auront les documents, comme moi-même. Qu'est-ce qu'il y a ? Où les a trouvés les 120 milliards ? Madame Merkel, Monsieur Hollande, où ils sont ? Je vais vous dire, c'était déjà prévu.
C'est du redéploiement ?
Ce sont des fonds structurels qui vont être redéployés. Alors les gens ne comprennent pas ce que sont les fonds structurels, c'est de l'argent qui est déjà dans le budget européen, qui devait aller sur des grands projets, ici ou là, qui n'ont pas été réalisés ou qui n'ont pas été proposés, et donc il est prévu de ponctionner 80 milliards de cette manière. C'est de l'argent qui existait déjà.
C'était
et
déjà
pas
prévu
employé.
Par les gouvernements précédents,
voilà.
En partie.
Mais
discuté.
Est prévu par les gouvernements précédents, mais surtout ce qui était prévu, c'est que comme il était déjà question de retirer ces 80 milliards, les députés des régions, comme on dit, ultra-périphériques pour les bureaucrates bruxellois, pour qui la Réunion, c'est ultra-périphérique, alors que pour nous, Français, c'est ultra-proche de l'Afrique. Et ainsi de suite. La Martinique, la Guadeloupe, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie française, le Wallis et Futuna, la Polynésie, c'est-à-dire les régions qui ont des besoins structurels essentiels, et dont vous savez qu'elles sont en ébullition sociale. Je ne suis pas en train de vous parler de
mais
territoires
alors vous
exotiques.
Quoi,
attendez, leurs 80 milliards, comme ils vont passer des fonds structurels à cette caisse de relance de la croissance pour les zones qui en ont le plus besoin, cet argent qui autrefois devait aller notamment à nos départements et territoires d'outre-mer, va maintenant revenir sur le sol européen, ouais, pour le Portugal, la Grèce, l'Espagne.
Jean-Luc Mélenchon.
Ah bah écoutez,
Jean-Luc Mélenchon,
donc ce n'est pas de la croissance qu'on est en train de faire.
Il y a une demande de l'Allemagne aussi, de plus en plus précise, qui a été affirmée à Rome, et vous, Européens, je voudrais savoir ce que vous en pensez, c'est l'Europe fédérale, élection du président de l'Union européenne au suffrage universel, transformation de la Commission européenne en gouvernement, et renforcement du droit du Parlement européen. François Hollande est très timide, effectivement, sur cette question. Vous-même, vous en pensez quoi ? Il faut aller dans ce sens-là ? C'est un piège pour vous ?
Écoutez, pendant des années, j'ai été un fédéraliste convaincu. Et puis jusqu'au jour où je me suis aperçu que le mot fédéraliste contenait aussi des contenus tellement contradictoires, parce que Mme Merkel a l'habitude d'appeler fédéralisme ce qui est un contrôle antidémocratique accru sur tous les États-nations qui composent l'Union européenne. Avec ça, je ne suis pas d'accord. Et je ne suis pas d'accord pour que on donne comme ça du crédit à des petits bidouillages institutionnels. Alors on va élire au suffrage universel un président sans pouvoir, on va continuer avec un Parlement que vous connaissez aujourd'hui qui a des pouvoirs extrêmement restreints, puisqu'on ne peut intervenir sur aucune des normes du marché intérieur, par exemple, etc. Donc je ne suis pas d'accord, aussi longtemps qu'on n'éclaire pas la question démocratique et qu'on ne dit pas qui commande en Europe. Le peuple ou les structures bureaucratiques inféodées à l'oligarchie financière. Alors, encore un mot, cependant, sur l'accord de Rome, pour vous montrer, j'ai parlé de mystification tout à l'heure, il faut quand même que je le prouve. Je viens de le montrer sur les 110 milliards, mystification. La taxe des transactions financières, qui est également dans l'accord de Rome. Vous regardez d'un peu près, il faut connaître ça, c'est le langage de la bureaucratie européenne. Il est marqué, tel que proposé par la Commission. Tout le monde dit, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Très bien, la Commission a proposé. Oui, mais entre-temps, le Parlement européen est intervenu sur la taxation des transactions financières. Parce que figurez-vous qu'ils comptent taxer tout, sauf les produits dérivés et tout cet argent, vous savez, qui circule de seconde en seconde à travers l'Europe. Et nous, le Parlement européen, nous avons voté pour taxer ça aussi. Et François Hollande a accepté qu'on en reste à la version la plus étroite, celle de la Commission européenne, et pas la version proposée par le Parlement européen. Voilà pourquoi je dis aussi, sur les transactions financières, il s'agit d'une mystification.
Mais pour vous, François Hollande renie ses engagements ou il est en train de se faire avoir, d'une certaine façon, par
Je pense qu'il est en train de se faire avoir, mais avec son consentement, parce que on en a discuté pendant la période de la campagne électorale. Moi, je ne le crois pas malveillant, ça serait pas sérieux de ma part. Mais il est persuadé qu'on peut s'arranger comme il le faisait à la tête du PS, qu'on discute, et puis on un petit bout pour ci, un petit bout pour l'autre. Mais là, il s'agit des intérêts des puissances économiques. Il s'agit de rapports de force entre les nations. Et là, il faut de temps à autre dire, ben non, c'est non. Et on ne peut rien faire en Europe sans les Français. Si François Hollande dit, on ne ratifiera pas le traité tant que vous n'aurez pas fait ceci et cela, ou qu'on en aura discuté, on ne ratifie pas le traité. Il ne s'applique pas en Europe. Par conséquent, il renonce aux instruments du rapport de force. Et comme Mme Merkel le sait, il n'y a pas qu'elle, les socialistes allemands le savent, parce qu'il le leur a dit, et les socialistes allemands ont bien vu qu'ils se préparaient à céder. Donc qu'ont fait les socialistes allemands? Ils sont dépêchés d'aller signer un accord avec Mme Merkel, et ils vont voter au Parlement le 29 juin le traité tel que, sans voler, relance. Voilà le résultat d'une politique dans laquelle on renonce au rapport de force, et en quelque sorte à la force, à la grandeur de la France. On ne fait rien sans les Français en Europe. Il faudrait peut-être arrêter de raser les murs.
Si on revient, Jean-Luc Mélenchon, à l'Hexagone et à la conférence sociale prévue dans oui. quelques semaines, là encore, pour ne pas renoncer, qu'est-ce qu'il faudrait faire?
Alors, bon, il y a bien des choses à faire, et bon, tout à l'heure, j'en ai indiqué quelques-unes, mais il y en a une qui me tient à cœur, et je vais utiliser ce moment d'antenne pour y revenir. À l'occasion de la rencontre que j'ai eue avec Martine Billard, ma coprésidente, avec le chef de l'État, je lui ai présenté une demande que nous avions développée pendant toute la campagne. C'était
quand il vous a consulté il y a quelques jours.
Et cesser toutes les poursuites contre les syndicalistes.
Pourquoi? Que soit le motif?
Alors, oui, parce que sur 15 000 licenciements de délégués du personnel, 12 000 ont été faits contre, au cours des 5 dernières années, contre l'avis de l'inspection du travail. Donc il s'agissait de mesures vraiment de coercition politique pour briser les reins à la résistance ouvrière. Et nous, au Front de Gauche, et en particulier au Parti de Gauche, nous sommes très attachés à redonner du courage à ceux qui nous ont en quelque sorte protégés pendant toutes ces années du sarkozysme. Et le chef de l'État s'est engagé, nous a dit « Ah oui, c'est très intéressant ». Et je vous promets, nous a-t-il dit à Martine Billard et moi, j'inscris cette question à l'ordre du jour de la conférence sociale. Donc j'attends de voir...
Donc pour qu'on comprenne bien, le chef de l'État vous a dit qu'il est favorable à une réintégration des 12 000 dont vous parlez, qui ont eu un avis positif, qui ont eu un avis négatif, pardon, de l'inspection du travail, dans les entreprises...
Monsieur Bertolus, vous avez été au bout du raisonnement. Mais ce n'est pas ce que m'a dit François Hollande. François Hollande m'a dit, je suis d'accord pour inscrire cette question à la conférence sociale, ce qui voulait dire qu'elle est légitime. Vous, M. Bertolus, vous allez au bout de la conclusion.
Ah non, c'était un engagement
vous allez
de,
voir.
De,
non, non,
de
non,
débat,
non, mais attendez.
Simplement.
Lui a dit, il se nomme de gauche quand même, François Hollande, donc s'il nous dit qu'il va s'intéresser aux syndicalistes licenciés injustement, c'est pas pour leur caresser la tête, c'est pour les rétablir dans leurs droits.
Vous voulez une amnistie, donc, en quelque sorte?
Moi, je souhaite d'abord une amnistie pour ceux qui ont été condamnés, mais surtout... pour tous ceux qui ont été licenciés contre l'avis de l'inspection du travail, il y aura au moins ce minimum, que ces gens soient rétablis dans leurs droits. Et qu'on cesse les poursuites contre toutes sortes de syndicalistes qui sont encore en cours. Hein. Par exemple, qu'on renonce, c'est une histoire qui est un peu vieille, à faire appel du dédommagement de ces malheureux mineurs qui avaient obtenu le dédommagement de leur grève de 1948. Vous imaginez, ils ont gagné, et à l'initiative du gouvernement de droite à l'époque, il y a eu appel. Ben, il faut renoncer à cet appel, et il faut donner... Je prends cet exemple, mais je pourrais prendre l'exemple des poursuites contre l'ouvrier Xavier Mathieu. Il faut arrêter le fichage génétique des syndicalistes. Pourquoi est-ce qu'on fiche, on a fait du fichage génétique des syndicalistes?
Mais vous allez obtenir
tous ceux qui ont été condamnés pour cette raison, je pense à mon camarade des Pyrénées-Orientales, eh bien, il faut qu'ils soient ou amnistiés et relevés, et que, bon, leurs empreintes soient effacées de ce fichier
ce
génétique.
Ce sera pour vous un critère pour juger et ensuite éventuellement soutenir la politique de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande?
Non, parce que c'est pas ni une affaire de personne, ni une affaire ponctuelle, l'approbation ou le soutien à une politique. Nous avons un désaccord qui s'est exprimé pendant la campagne présidentielle. Nous avons payé cher d'aller au bout de notre logique, de notre fierté d'assumer notre programme. Nous sommes maintenant autonomes. Nous avons payé très cher pour ça. C'est nous qui avons fait la victoire de François Hollande, je le rappelle à tout le monde, compte tenu de l'étroitesse du résultat, personne ne peut nous contester ce point. C'est nous qui avons fait aussi l'élection de tous les députés dans tout le pays.
Mais alors aujourd'hui, vous êtes dans ou hors de la majorité?
Attendez, nous sommes autonomes. Voilà, non, mais attendez,
mais
moi je refuse de rentrer. Ouais, ben, nous allons en parler, mais commençons déjà par dire ce point. Nous avons payé chèrement pour pouvoir développer notre propre activité, qui ne se résumera pas La vie parlementaire, c'est comme ça, vous êtes d'accord avec ceci, contre cela, d'ailleurs même des gens de droite votent en cours de route des amendements de gauche. C'est pas ça le sujet. Chacun s'efforce de servir à l'intérêt général, à la
mission. Mais c'est quoi autonome ? C'est je soutiens ou c'est je m'oppose ?
C'est voilà. Constructif ou c'est offensif ?
Alors ça, ça me plaît mieux. Parce que je soutiens ou je m'oppose, je suis en train d'expliquer que ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie quotidienne d'un Parlement.
Il y a un moment où il faut voter.
Voilà, il y a un moment où il faut voter. Il y a des questions clés. Par exemple, est-ce que vous votez
le budget.
La motion de censure.
Première exemple. Oui, la motion. Oui,
mais... faire tomber le gouvernement. C'est là que, ouais. Bon, moi j'ai toujours dit avec mes camarades du Front de Gauche, nous on fera jamais tomber le gouvernement. Mais pour le reste, nous ne serons pas naïfs. Donc, c'est pas parce que le gouvernement est le gouvernement que nous allons tout voter. Prenons un exemple. Peut-être le Premier ministre va-t-il poser la question de confiance. Peut-être va-t-il dire, est-ce que vous me faites
confiance ? Vous le souhaitez d'ailleurs ou pas ? Vous le souhaitez qu'il pose.
Normalement, c'est ce qui se pratique dans un régime parlementaire. Un gouvernement qui arrive demande à l'Assemblée. Bon, moi je ne suis pas d'accord pour qu'on lui vote un chèque en blanc. Alors, si j'étais député, je parle pour moi, parce que vous savez que c'est le groupe Front de Gauche qui va décider tout seul. Si moi, j'étais député, je m'abstiendrais. C'est-à-dire, ni je voterai contre, ni je dirais par avant, je suis pour.
On va vous retrouver dans quelques instants. On reviendra sur le bilan que vous faites de la séquence présidentielle, législative. Quel bilan vous tirez de votre stratégie d'affrontement avec le Front National et puis cette défaite relative aux législatives. Il n'y a plus qu'un seul député parti de gauche aujourd'hui.
Oui, il y en a 10 du Front de Gauche. Quand
oui,
même.
Il y en a une dizaine du Front de Gauche en effet, mais le groupe.
Il y a 7 communistes, 2 de la FASE et 1 du Parti de Gauche.
On va revenir sur tout ça et sur votre avenir personnel aussi, Jean-Luc Mélenchon, dans un instant. Sur Europe 1 et iTélé.
Tous les dimanches, 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec iTélé, Le Parisien et Aujourd'hui en France. Mathieu Croissando, Jean-Jérôme Bertolu, Thierry Guerrier.
Et notre invité Jean-Luc Mélenchon sur iTélé, sur Europe 1 avec Le Parisien Aujourd'hui en France. On revient sur le bilan de cette séquence électorale. Il y a plus d'un an que vous êtes en campagne, la présidentielle, législative. Fallait-il poursuivre aux législatives votre duel, votre affrontement systématique, votre duel présidentiel avec Marine Le Pen, jusqu'à la poursuivre, jusqu'à Hénin-Beaumont chez elle ?
Oui, parce que ça dépend de l'utilisation qu'on fait d'un leader, pour utiliser un mot anglais. Hein. Sur ma candidature commune, on recueille 4 millions de voix. Que fait-on de moi ? Je vous signale que quand vous mettez au présidentiel, quand vous mettez bout à bout les trois outsiders, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire M. Bayrou, Mme Le Pen et moi, ça fait 14 millions de voix. Aucun des trois n'est à l'Assemblée nationale. 14 millions de voix.
Il y a deux députés FN, mais en effet,
oui.
C'est presque un accident.
Oui, non, mais c'est un système qui est absurde. On nous dit on va faire le scrutin majoritaire pour empêcher le Front National d'entrer à l'Assemblée. Il entre à l'Assemblée. Mais en même temps, on défigure la représentation nationale. 94% des sièges de l'Assemblée vont à deux partis qui ne regroupent que 38% des inscrits.
François Hollande s'est engagé à instiller une part de proportionnelle. Pour vous, il faut la monter à combien ?
On va voir, mais moi je ne suis pas pour ce système, je suis pour passer à une autre république, donc on va voir ce qu'il va proposer. Mais le système actuel est totalement injuste. Alors moi, fallait-il continuer ? C'était une décision politique à prendre. Je ne l'ai pas pris tout seul, j'espère que personne ne s'imagine que je me lève le matin en me disant « Tiens, je vais aller à Hénin-Beaumont, c'est pas comme ça que c'est
et
passé. »
Et pourquoi vous l'avez fait alors, collectivement ?
Nous avons décidé, je dis bien nous, car c'est une décision collective.
Mais Front de Gauche ou Parti de Gauche ?
Le Front de Gauche, le Front de Gauche en réunion du lundi, tous les lundis,
avec Pierre Laurent, Parti communiste.
À l'époque, les dirigeants communistes pensaient qu'on aurait 30 sièges. Donc on a dit, il faut absolument que Jean-Luc y soit. Moi, c'est une question, vous savez, quand vous êtes dans un état de fatigue comme celui de la sortie d'une élection présidentielle, vous en remettez au point de vue de tout le monde. Bon, très bien, donc oui, en effet, il faut y aller, il faut continuer la bataille, et je sais très bien que, comme il y a eu beaucoup de lumière sur moi, le fait que j'aille dans une circonscription a donc forcément du sens. Donc je ne pouvais pas aller, comme on m'a dit depuis, il y a toujours des gens qui refont l'histoire, hein. Il fallait dans une circonscription sûre, mais c'est quoi une circonscription sûre ? Et vous auriez dit quoi, vous les commentateurs, si on vous avait annoncé « Monsieur Mélenchon s'en va dans telle circonscription » gagner d'avance.
Il y a certains dirigeants communistes aujourd'hui qui vous reprochent d'une certaine manière d'avoir résumé la campagne des législatives à un affrontement avec le Front National et du coup au détriment
je ne sais
de
pas
l'alternative politique
oui, que vous
représentez.
Mais je ne sais pas de quel dirigeant communiste vous parlez. Moi, ce que
Francis
sais...
Parny, par exemple, en charge des relations avec les autres partis au PC, qui dit notre campagne nationale a été décentrée et ne portait plus sur la question de l'alternative politique proposée
oui,
par la gauche radicale.
Mais c'est, il a raison.
Elle a été focalisée sur la
Front National. Il a raison, mais ce n'est pas de mon fait. car la décision a été prise de m'envoyer là-bas pour que précisément on voit le sens de la bataille que nous menions contre le Front National. Et c'est ça le plus important, contrairement à ce qu'on a dit, je voudrais faire remarquer que c'est une spectaculaire réussite, parce que quand j'y suis allé, je suis le dernier, je fais 14,80%. Le socialiste est à 28, Madame Le Pen est à 31 avant que j'arrive. Elle est arrivée à 31 du fait des turpitudes locales des socialistes et du fait qu'à Hénin-Beaumont, la ville d'Hénin-Beaumont, il n'y a même plus de section socialiste, ils ne font plus rien, que Madame Aubry n'y a pas mis les pieds au cours des 4 dernières années. En quoi est la réussite ? Eh bien, c'est qu'en l'espace de 3 semaines, avec une méthode de combat qui a été de confronter son programme au mien, et pas du tout ce qui en a été dit, les balades sur le marché, tous ces trucs pour journalistes qui descendent du TGV, ils remontent après. C'est une bataille de terrain. Nous sommes allés au coltage. J'ai gagné 1000 voix. J'ai remonté 6 points en l'espace de 3 semaines. C'est-à-dire que la méthode politique que j'ai utilisée paye. Bien sûr, elle court devant. Mais nous courons plus vite qu'elle. Pourquoi ? Je suis le seul qui ait gagné des voix par rapport à l'élection présidentielle. Elle, alors qu'elle est à l'endroit où elle milite, elle n'a gagné que 0,8% de voix. Je parle de gens qui se lèvent le matin et vont mettre un bulletin de vote. Et savez-vous où elle a fait sa plus grande progression ? Là où elle a le plus avancé, là où elle a fait 30% de progression, dans la commune du candidat socialiste.
Vous n'avez pas capitalisé votre succès de l'élection présidentielle sur la législative.
Vous avez perdu.
Attendez, là nous parlons, je parlais du cas des Hénin-Beaumont. Je veux dire, quand qu'on se moque de moi, je le comprends. J'ai eu des relations tellement tendues avec les médias que c'est bien normal qu'ils se vengent en disant « Ah, il n'a pas réussi ». Mais après, il ne faut pas non plus que ça fausse le regard. J'ai appliqué une méthode politique. Ce n'est pas l'homme que vous devez regarder, c'est la méthode. Et cette méthode qui a été d'arracher une à une les voix en confrontant les programmes. Et j'ai gagné, parce que moi, j'ai gagné 1000 voix. Et elle n'a pratiquement rien gagné. Et les socialistes qui m'ont fait la leçon pendant tout le temps, Madame Aubry qui est venue sur place pour la première fois depuis 4 ans, Monsieur Hérault qui est venu sur place au premier tour pour faire campagne contre moi, pour la première fois de sa vie, et combien d'autres. Tous ceux-là ont perdu, écoutez-moi bien, 8000 voix. Bon. C'est-à-dire que leur méthode ne vaut rien et la mienne paye.
Mais maintenant, en attendant, vous avez perdu. Quel est l'objectif, finalement, de s'affronter systématiquement à Marine Le Pen ?
Mais écoutez, de casser la mécanique de la dédiabolisation, qui a trouvé des complicités dans les médias, qui m'inquiète, je vous le dis, avec, comment dire, comme citoyen, pas comme homme politique engagé, c'est très dangereux de diaboliser un personnage pareil qui utilise des méthodes pareilles, les lettres anonymes, les faux tracts, la pression physique sur les gens, entourée de groupes de skinheads, et vous faites tous comme si, comme elle est sympa et qu'elle fait des beaux sourires, c'était, on oubliait qui est le Front National et que c'est cette organisation. Bien. Alors, pourquoi se concentrer sur elle ? Mais mes amis, c'est elle qui est en train d'avancer, comme dans toute l'Europe, l'extrême droite est en train d'avancer. C'est l'extrême droite qui est en train de contaminer la droite. Et ça ne serait pas le moment où il faudrait aller au cœur du sujet. Mais que dit-elle ? Que propose-t-elle ? Aller lui
encore
disputer ?
Encore une fois, je vous repose la question. Vous n'avez pas capitalisé sur votre succès de la présidentielle. Et vous, personnellement, Jean-Luc Mélenchon, au terme de cette séquence importante, alors que vous vous êtes engagé depuis un an, ben vous vous retrouvez un petit peu marginalisé aujourd'hui.
Mais pas du tout.
Vous allez faire quoi ?
Attendez, commençons par ce que vous dites qui est juste. Nous n'avons pas capitalisé. Monsieur Bertolucci, ça c'est le cœur de l'affaire. Tout le reste c'est du bavardage. Comment se fait-il que nous faisons près de 4 millions de voix aux élections présidentielles et que nous ne les retrouvons pas aux élections législatives ?
Oui.
Pourquoi nous manque-t-il des voix ? Qu'est-ce qui dans la campagne n'a pas fonctionné ? Moi je n'en sais rien, la campagne législative, je ne l'ai pas dirigée. J'ai dirigé la campagne présidentielle. La campagne législative, le collectif m'a envoyé sur le front. Là-bas, à Hénin-Beaumont, j'ai tenu la tranchée, j'ai fait mon travail.
C'est la faute de Pierre Laurent ?
Non, pas du tout. Pierre Laurent est un camarade et un ami. Mais ce que je veux dire à tout le monde, c'est que ceux qui ont cru qu'ils allaient mieux faire de meilleurs résultats, parce qu'ils faisaient une campagne locale, hein, 577 campagnes locales. Avant de partir, j'ai dit, c'est absurde. Il faut une campagne nationale, sur des mots d'ordre nationaux, avec des affiches nationales, et en essayant de capitaliser les 4 millions de voix qui s'étaient portées. Alors maintenant, on va quand même pas venir me voir et me dire, t'en as trop fait à Hénin-Beaumont. J'ai été envoyé là-bas pour combattre le Front National et pour que ça se voit. Mais que faisaient les autres pendant ce temps-là ? 577 campagnes locales. C'est une erreur, camarade. Le travail qui doit être fait est un travail politique qui doit être centralisé politiquement, nationalement, autour de mots d'ordre, d'un bout à l'autre du pays. Les mêmes, pas de campagne locale. Je l'ai dit à tous les camarades avant, et je sais que Pierre Laurent a fait pour le mieux. Mais je pense que c'est une erreur d'avoir fait cette campagne locale.
Est-ce que cette division que vous soulignez dans la vision stratégique menace le projet ? Laissez-moi finir ma question. Visiblement, le projet d'un grand parti, Front de Gauche, dans lequel se fondrait le Parti communiste, le Parti de Gauche, c'est fini ça.
Il n'y aura pas de grand parti Front de Gauche, car nous, les communistes, sont attachés à l'autonomie de leur parti, et nous, le Parti partis de gauche, puisque ce sont les, il y a 7 partis, hein, nous sommes, jusqu'à présent, notre tactique et notre construction s'est absolument identifiée à celle du Front de Gauche. Donc nous comprenons que chacun doit être autonome dans l'action commune. Le Front de Gauche est un bien commun, précieux. Personne n'en discute l'existence, notamment les communistes.
Et pourquoi pas de grand parti ?
Il n'y a plus aucune opposition, parce que vous n'avez pas fait attention, vous les observateurs, mais ce n'était pas acquis du tout. Au début, les communistes, c'était pour faire des fronts. Le Front de Gauche aux élections européennes était une étape provisoire, et ainsi de suite. Donc nous avons construit de manière pragmatique. Pierre Laurent et moi, qui travaillons en symbiose permanente.
Et l'avenir de ce Front de Gauche, c'est quoi ?
Je termine, écoutez-moi. Le Front de Gauche n'est pas une théorie. Le Front de Gauche n'est pas l'objet d'un colloque. Le Front de Gauche sert à quelque chose.
C'est-à-dire... Quel est l'objectif du Front de Gauche ?
Là, le Front de Gauche sert à présenter le programme L'Humain d'abord, le présenter aux citoyens, le proposer comme une alternative au modèle économique dominant et au modèle politique dominant. Mais maintenant, donc, le Front de Gauche va se poser des tâches politiques. Quelles vont être nos tâches ?
Ça veut dire prendre des mairies, ça veut dire...
Bien sûr, nous sommes un parti républicain. Donc nous croyons au suffrage universel. Et bien sûr, il y a des luttes sociales, bien sûr, elles vont être très dures. Bien sûr, nous allons les appuyer. Bien sûr, nous allons les relayer. Et vous verrez la différence. Parce que maintenant, ce sont les socialistes qui ont toutes les responsabilités. Ils ont tout fait pour ça. Ils ont été absolument écrabouillés, vassalisés tout le monde. Ils ont vassalisé les Verts et ils ont essayé de nous écrabouiller. Bon, maintenant, ils ont toutes les responsabilités. Donc, toute conscience de gauche est en quelque sorte mise au pied du mur. Quelle est la méthode qui est la meilleure ? Celle des socialistes ou la nôtre ?
Jean-Luc Mélenchon.
Oui.
Le tribun de la gauche radicale, comme certains vous ont présenté que vous êtes, a permis, alors que le Parti communiste et la gauche de la gauche totalement éclatée, aux deux dernières présidentielles, 2002-2007, moins de 2%, à peine 3% en 2002, le tribun que vous êtes a permis à cette gauche de la gauche de se réunifier et d'apparaître avec ses 11%, ce qui n'avait jamais été vu depuis des décennies.
Depuis 80.
Bien. Alors, aujourd'hui, comment faire pour éviter de vous diviser à nouveau et pour ne jamais capitaliser, comme le disait Mathieu Croissando, sur cette réussite, ouais. mais qui,
mais soyez pas impatient,
qui est déjà passée.
On existe depuis 4 ans. Maintenant, on me met quasiment au pied du mur de dire comment vous n'avez pas encore battu le Front National. Et là, depuis 40 ans...
La question
ans,
que je vous ai posée, c'est comment vous, personnellement, vous vivez cet échec qui a suivi la réussite en partie de la présidentielle. Et qu'est-ce que vous allez faire, vous ?
Vous, personnellement, alors, vous allez prendre des vacances et après les vacances,
ouais,
vous faites quoi ?
De l'échec, il faut toujours. Il y a deux manières de faire. Soit on se laisse effondrer, soit on essaye de voir ce qui est confirmé ou infirmé. Ce que notre situation électorale ou législative fait apparaître, c'est l'ineptie qui consiste à territorialiser une politique. Ça n'a pas de sens.
Ça veut dire quoi ? Je ne comprends pas.
Je vais dire, ça n'a pas de sens de faire 577 campagnes législatives locales. Une campagne législative, c'est pour élire des députés qui s'occupent de la nation. Donc, il ne faut pas focaliser sur une ou deux réussites personnelles. Par exemple, mon camarade André Chassaigne a une magnifique réussite personnelle. Mais il ne faut pas que ça fausse son regard. Il est président, il va être le président de notre groupe. Il faut qu'il considère les 577 communes et circonscriptions.
Vous ne dites pas, vous allez faire quoi ? Vous retournez au Parlement européen ?
Mais moi, j'ai fait un boulot, mais j'ai fait un beau boulot, figurez-vous, je suis un homme heureux. Mais ce n'est pas tout le monde qui fait 4 millions de voix aux élections présidentielles, enfin. C'est des
mais
millions
c'est ce que je viens
de gens.
Vous voyez que la presse est capable d'avoir une vision bienveillante ou en tout cas objective.
Il n'y a pas autour de cette table. Mais
répondez à la question.
Donc, je suis à moi tout seul.
Vous restez au Parlement européen ?
On m'a confié une notoriété. Regardez la bataille que nous menons contre le Front National. Vous pouvez avoir 20 journaux qui se régalent de voir qu'elle a gagné et qui se satisfassent de l'avoir là-bas.
Il n'y a pas 20 journaux qui se régalent.
Mais moi, ce que je sais, c'est que pour des millions de gens dans ce pays, c'est le Front de Gauche qui incarne la bataille contre le Front National. Nous sommes l'aile la plus déterminée et la plus volontaire. Et je porte, à ma manière, ce projet.
Et vous le
mais
porterez
où ? Ça suffit à remplir ma vie.
Et comment ? Vous porterez
et ben
où ?
Je suis député européen. Cela signifie député de toute la nation. J'espère que personne ne croit à cette bêtise de circonscription. Parce qu'ils ont découpé 7 circonscriptions, la mienne. Il y a 3 régions, 18 départements. Il y a Perpignan et Bordeaux. Je suis tout le temps en train de circuler là-dedans. C'est comme si j'y étais jamais. Parce que ça n'est pas perceptible. Je fais mon travail de député européen parce que vous m'avez vu dans tous les meetings expliquer les réformes européennes qui arrivent. Je fais ce travail d'éducation populaire. C'est ça mon boulot. C'est d'abord ça. Après le reste, ça va.
Donc vous retournez siéger au Parlement européen. Là, vous partez en vacances et je trahis un petit secret.
Non, je pars d'abord au Forum de São Paulo, qui est le rassemblement de toute l'autre gauche d'Amérique du Sud, où je suis observateur.
Et vous allez prendre des vacances en Amérique du Sud ?
Non, je ne crois pas. Je pense que je vais rester benoîtement sur le territoire français où je suis à l'abri et sous la protection de mes camarades parce que je n'ai plus de protection policière et je suis très régulier. Pardon ?
Vous êtes menacé ?
Oui, oui, mais bon, c'est pas la peine d'en faire une tartine, c'est pas la peine d'encourager
un dingue. Non, mais un petit mot, vous le dites effectivement comme ça, mais ça a été une campagne très dure, la campagne d'Alain Beaumont. Comment vous l'avez effectivement vécu d'un mot, cette campagne ?
Je suis consterné par ce que j'ai vu. D'abord, l'état d'abandon politique de la population. Ce n'étaient mes camarades communistes, il n'y a plus rien. Tout le reste, ce sont des notables locaux qui ne s'intéressent à rien. Je vous l'ai dit, à Hénin Beaumont même, ville où Mme Le Pen a fait 60% dans certains bureaux de vote, il n'y a plus de section socialiste, ils ne font rien. Et moi, j'ai vécu dans une ambiance anxiogène terrible, faite de lettres anonymes, de tracts anonymes, de faux tracts, d'injures, de menaces personnelles, de gros bras au crâne rasé circulant sur les marchés. Vos collègues, d'ailleurs, les ont vus. Et je sais depuis, parce que des camarades, les bouches s'ouvrent maintenant, puisque moi, j'en ai parlé publiquement, me racontent des circonstances comparables au niveau local.
Merci.
Le Front National est très dangereux.
Merci à tous, merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 avant ce repos et avant votre rentrée politique dans quelques mois, ici peut-être sur Europe 1.
Peut-être.
Merci beaucoup Thierry Guerrier.